Lundi. Mardi. Mercredi.
Bog.
Bonjour, Guillaume Duval pour vous présenter le numéro du mois de février d'Alternatives économiques. Donc ce mois-ci, nous titrons sur le retour des héritiers. Donc c'est notre dossier. On le sait, les inégalités s'accroissent à nouveau dans les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais cela tient beaucoup à la place qu'occupe désormais l'héritage dans ces inégalités. Donc on est revenu à une époque analogue finalement en termes de chiffres, de données, à ce qui se passait au XIXe siècle, où c'est beaucoup ce qu'on hérite de ses parents, de sa famille, qui fait le patrimoine des personnes. En France aujourd'hui, si vous n'avez pas hérité, vous avez beaucoup de mal dans beaucoup de régions à accéder par exemple à la propriété immobilière. Donc c'est devenu quelque chose d'absolument déterminant et c'est quelque chose qu'on observe non seulement en France, mais dans l'ensemble des pays occidentaux développés. Nous donnons les chiffres et c'est assez impressionnant. Donc là se pose en particulier la question de la taxation de l'héritage, où on constate que pour l'instant, en tout cas en France, c'est une taxation qui reste malgré tout relativement faible. Alors c'est toujours un sujet extrêmement sensible sur le plan du débat public, c'est-à-dire que même si les mesures qu'on propose ne visent en général que les hauts aux héritages, enfin que les héritages les plus importants, on constate toujours une résistance très forte dans les sociétés vis-à-vis de la hausse des prélèvements sur l'héritage, mais c'est pourtant quelque chose qu'il faudrait avancer, surtout dans le contexte où en France, en plus, on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune et toutes ces choses-là. Donc nous faisons le point sur ces questions-là. Nous faisons le point également sur l'impact économique qu'à cette évolution, qu'à l'héritage. Donc il y a des points de vue un peu différents, c'est-à-dire que ça peut... Enfin, le fait de pouvoir léguer quelque chose à ses enfants, on peut considérer que c'est une motivation pour les gens pour être efficace économiquement, accumuler, avoir du succès sur le terrain économique, etc. Et qu'ils pourraient être désincités à le faire si on leur pique tout quand ils meurent. Mais en même temps, du point de vue économique, c'est évidemment un frein. Si toutes les positions sociales sont occupées par des héritiers, il n'y a aucune raison que ce soit eux qui soient les plus intelligents, les plus malins, les plus entreprenants, etc. etc. Donc nous en prenons aussi sur le débat économique là-dessus. D'autres solutions peuvent être éventuellement proposées. Hein. Donc on peut essayer de combattre ces inégalités en, par exemple, donnant un petit patrimoine public à chaque jeune au moment où il départ dans la vie, où il commence dans la vie, etc. Donc nous faisons le point sur les politiques publiques qui peuvent permettre de contredire cette tendance lourde, longue des pays développés à redevenir des sociétés d'héritiers. Nous avons néanmoins un deuxième dossier, évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui, qui concerne donc le grand débat lancé par le gouvernement suite au mouvement des Gilets jaunes. Donc nous faisons le point sur les principaux sujets de ce grand débat, sur les questions de fiscalité, où les questions posées par le gouvernement sont assez biaisées, sur les questions d'état de service public, où le gouvernement veut économiser beaucoup de choses, mais on ne voit pas bien comment il pourrait faire sans dégrader de nouveau gravement les services publics et les services qu'ils rendent au public. Nous revenons aussi sur la question de l'environnement qui a été au cœur de la crise des Gilets jaunes et sur la transition énergétique. Donc comment faire pour rendre une fiscalité écologique qui est indispensable socialement acceptable et quelles autres politiques mener dans ce domaine. Et enfin sur les questions d'institutions, de démocratie, de représentativité où manifestement aujourd'hui la situation n'est absolument pas satisfaisante, les institutions sont remises en cause et il faut changer des choses. Donc nous revenons à la fois sur ce qui est possible, mais aussi les difficultés que ça représente, que représente le référendum d'initiative citoyenne si on le mettait en œuvre, etc. Donc, un point là-dessus, parce que ce grand débat nous paraît malgré tout utile, mais il faut en tirer effectivement le maximum pour que ça le soit réellement. D'autres sujets, nous revenons sur les heures sup détaxées pour indiquer pourquoi c'est une fausse bonne idée. Nous revenons aussi sur la situation des universités qui, malgré tous les grands discours sur la priorité à l'éducation et notamment à l'enseignement supérieur, se retrouvent aujourd'hui dans une situation financière très dégradée et très difficile. Et ça ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines années. Nous revenons aussi sur l'économie sociale et solidaire, donc qui pourrait être un élément de réponse à la crise qu'a mis en évidence le mouvement des Gilets jaunes, donc renforcer non pas simplement les services publics, mais aussi les formes d'organisation pour répondre aux difficultés de la vie quotidienne qui sont non public, sans être pour autant des activités capitalistes à la recherche du profit. Donc nous interrogeons là-dessus des spécialistes pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Nous revenons également sur la situation de l'économie chinoise qui donne aujourd'hui des signes de faiblesse très inquiétants pour elle, pour la stabilité du pays, mais aussi pour l'économie mondiale, compte tenu de l'importance qu'elle a prise. L'économie chinoise est fortement impactée par la guerre commerciale que mène Trump aujourd'hui, et ça a l'air, enfin, les difficultés ont l'air plus importantes que ce que le gouvernement veut bien dire. Donc, nous revenons sur les sous-jacents de ces difficultés. Nous revenons également sur les 40 ans de la République d'Iran. Et pour faire un peu le bilan, en tout cas sur le terrain socio-économique de là où elle en est, et ce bilan n'est pas très positif, hein, donc c'est quand même une société, une économie très divisée, très inégalitaire, très affectée par finalement dans ses structures, par l'isolement dans lequel elle s'est cloîtrée depuis 40 ans, et très instable de ce point de vue-là, ce qui peut menacer aussi la paix du monde dans cette région très explosive. Nous revenons aussi sur le plan industriel, sur la question du fromage qui est une spécificité française, mais qui pourrait du coup servir effectivement de planche de salut à l'industrie du lait française si on réussit un peu à améliorer en particulier ses exportations, sa capacité à se vendre au-delà de nos frontières. Et nous revenons également sur une très grosse affaire qui est l'affaire Chevron, donc qui a pollué des zones dans prélevant du pétrole et qui n'a pas été condamné jusqu'ici là-dessus. Donc c'est une affaire très emblématique des difficultés à mettre en place une justice internationale sur les méfaits des entreprises multinationales. Enfin, nous revenons sur les questions de green bonds, d'obligations vertes qui se développent beaucoup depuis en particulier l'accord sur le climat de Paris en 2015, mais sans qu'on se soit mis d'accord réellement suffisamment pour définir ce que c'était une vraie obligation verte, quelles obligations elle devait remplir justement pour mériter vraiment ce terme. Et donc on a là-dedans aujourd'hui à boire et à manger, et ça pose un problème, ça risque de décrédibiliser cette action pour le futur, ce qui serait très embêtant pour la transition énergétique. Voilà, d'autres articles encore, mais je vous laisse les découvrir dans le numéro du mois de février d'Alternatives économiques.
Crier, 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 crier.